Bonjour à tous.
Aujourd'hui, le prix, il est construit avec l'agriculteur qui, lui, subit, puisque c'est une négociation entre un distributeur et un transformateur. Et ensuite, on va voir l'agriculteur en disant « Toi, on va te payer moins cher. » Alors que là, c'est le contraire. Le prix va être construit à partir du prix de la matière première agricole et non pas le contraire. Donc, ça change tout.
On aimerait bien que ça change tout. Bon, vous voulez savoir d'où vient une grande partie du malaise des agriculteurs? Le moment où ça se joue, en fait, hein, c'est quand? Eh bien, Serge Papin vient de l'expliquer. C'était chez nos amis de France Info. Il sait de quoi il parle, Serge Papin. C'est l'ancien patron de Système U. Alors, ça se joue chaque année, au moment où, disons, fabricant de lasagne engage son bras de fer habituel avec les grandes surfaces. Ils se battent sur le prix d'achat, mais combien coûte le bœuf, combien coûte le lait, la crème, le fromage, la tomate, ça, on n'en parle pas. Hein. À la fin, chacun fait la marge qui lui convient, et tout ça se résout, bien, sur le dos de l'agriculteur. Voici donc ce que Serge Papin, qui a joué au même jeu, veut changer. Il vient de remettre ses propositions au gouvernement. Il dit qu'il faut faire bouger la loi pour que le prix se construise, au contraire, à partir du coût de production des matières premières. Bonne piste, ça n'est pas la première fois qu'on en parle, mais plein de questions. Hein. Est-ce que c'est compatible avec le droit européen, ce qu'il propose? Comment éviter que les fabricants aillent se fournir ailleurs qu'auprès de fournisseurs français? Et puis qui va payer? Seulement le consommateur? On a appris à connaître le don des industriels et des distributeurs pour contourner les lois. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 2 ans, la loi alimentation. Alors là, en gros, on nous avait promis qu'en vendant le Nutella plus cher, les producteurs de pommes seraient mieux rémunérés. Et bien en 2021, ça alors, les agriculteurs ne sont pas payés plus et personne, mais alors personne, ne sait où est passé cet argent.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Maguéco. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Juliette Gou, la réalisatrice, avec Valentin Pérez, l'attaché de production, et puis Gilles Gaillard qui nous accompagne à la technique. Ce samedi 27 mars, nous allons parler de notre consommation justement, et puis de ce que cette pandémie change à nos habitudes d'achat. Avec notre invité, c'est le PDG de Fnac Darty ce matin, Enrique Martinez, qui sera dans ce studio vers 9h45. Pour les jeux vidéo, en tout cas ces derniers mois, il n'y a pas eu de creux, hein. Au contraire, le marché a explosé. Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. Et puis bien sûr, au programme, le regard de Sandrine Foulon sur Ma vie au boulot. Sandrine, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Alors, on me dit que vous voulez nous parler d'une révolution en fait.
Et oui, pour la première fois, il y a plus de cadres que d'ouvriers en France. Mais qu'est-ce qu'un cadre aujourd'hui?
Ouais, et quelles conséquences sur le marché du travail? Rendez-vous tout à l'heure, juste avant 10h, mais tout de suite. On commence avec eux, bien sûr, ce sont les débatteurs. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour.
Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne, bonjour Laurent.
Bonjour.
Votre débat ce matin, c'est un bras de fer, alors par celui entre les industriels, les distributeurs et les agriculteurs. C'est le bras de fer entre la Chine et l'Occident, escalade des tensions.
À l'origine, la sortie d'un chercheur français qui dénonçait dans un tweet les pressions chinoises sur des parlementaires français qui souhaitaient se rendre à Taïwan. Réaction immédiate de l'ambassadeur sur Twitter également. « Petite frappe », écrit-il en français dans le texte, comparant également le chercheur à une hyène folle, un troll idéologique.
Coup sur coup, les ambassadeurs chinois en France, en Belgique, en Allemagne et au Danemark se sont vus convoqués pour répondre de sanctions. Des pénalités imposées par la Chine à 10 personnalités européennes coupables aux yeux des autorités chinoises d'être un peu trop sensibles au sort des Ouïghours.
Des chaussures Nike brûlées, des t-shirts H&M découpés sur les réseaux sociaux. Ici, on voit de plus en plus de ces vidéos ces dernières 24 heures. Des images qui s'ajoutent aux appels au boycott de plusieurs marques de vêtements qui avaient affirmé ne pas utiliser de coton du Xinjiang ou ne pas travailler là-bas avec de la main-d'œuvre forcée.
La Chine est un partenaire économique incontournable à l'échelle mondiale.
Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur.
Mais nos relations ne doivent pas se faire au détriment de nos principes, de nos valeurs et du modèle de société que nous défendons, ni être exempte de réciprocité.
Face au génocide de la minorité ouïghour, est-ce que l'Union européenne s'est donné véritablement les moyens? Et pour un économiste comme moi, la vraie question, c'est est-ce que l'Europe dispose, un, d'une autonomie économique et deux, de moyens de pression économique? Ce n'est pas évident.
Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS.
Sur les masques, d'un côté, l'Union européenne dénonce le virus Made in China, mais en même temps, en ce qui concerne les masques, respirateurs, etc., on n'a jamais vu les exportations chinoises vers l'Europe être aussi importante.
Le ministre de l'économie français, cette semaine, dit « c'est la croissance qui va rembourser la dette ».
Philippe de Sertine.
La croissance, elle ne viendra pas de notre consommation intérieure dans notre vieille Europe avec une population vieillissante.
Directeur de l'Institut de haute finance.
C'est l'Asie qui va traîner la croissance. Les Chinois peuvent être très, très, très dangereux pour les Européens, non seulement s'ils ferment la Chine, mais s'ils ferment l'Asie.
Aujourd'hui, le monde est en train de s'organiser de manière bipolaire entre la Chine et les États-Unis. Et bien autre chose que la santé.
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
L'intelligence artificielle, l'approvisionnement en matières premières. Il n'y a qu'une seule réponse pour nous, c'est l'Europe. Donc si l'Europe se fragilise, c'est nous qui pouvons sortir de l'histoire.
C'est une histoire de valeurs, de principes, et puis il y a aussi tout un volet économique à ce dossier, à cette escalade de tensions. Au fond, la question c'est, peut-on vraiment se fâcher avec une superpuissance économique ? Laurent Bigorgne, on fait d'abord un petit rappel des faits, comme toujours. Qu'est-ce que c'est que ces tensions, ces faits qui nous en amènent là avec la Chine ?
Alors, ce ne sont pas que des tensions sur Twitter ou des tensions par communiqué de presse interposés. Il faut bien dire qu'au-delà des sujets plus rhétoriques, il y a des sujets sérieux qui concernent effectivement la situation de Hong Kong, sur laquelle la Chine fait main basse à l'occasion de la pandémie, la situation des Ouïghours, mais pas seulement, des Kazakhs, des Kirghizes, la situation à venir de Taïwan, sur laquelle la Chine a clairement des visées expansionnistes. Vous savez qu'on ne peut toujours pas dire que Taïwan est un pays sans susciter la colère des officiels chinois. Et puis, il y a tout un système de pouvoir qui s'est durci en Chine autour du culte de la personnalité qui est voué au président Xi, qui est au pouvoir depuis 2013 et qui, d'une certaine façon, atteint des sommets qu'on n'avait pas vus depuis la disparition de Mao en 76. Alors, il y a eu une accélération des tirades dans le monde entier ces dernières semaines, au Canada, en Australie, aux États-Unis, évidemment en France, avec le son rappelé la tirade de l'ambassadeur Gouchaï, qui a sans doute eu la communication la plus concrète et la plus violente. Ils avaient épargné la Grande-Bretagne jusqu'à maintenant, c'est fait depuis hier ou avant-hier. Et donc il faut se poser la question de savoir où tout cela nous emmène. Est-ce qu'on est d'abord Europe, États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement l'Occident, traité à la même enseigne? En réalité, il faut bien regarder que non. Non, pourquoi? Parce que, et c'est aussi expliqué dans le petit son, il y a des sanctions contre l'Europe, mais elles sont plus larges que celles qui ont été prises contre les États-Unis à l'été dernier, et elles viennent réagir à des sanctions américaines qui étaient beaucoup plus dures que les sanctions européennes. En réalité, ce qui vient de se passer sur le coton du Xinjiang, avec toutes ces grandes marques qui, d'une certaine façon, ont dit « on va arrêter de consommer ce coton pour produire », avec les mesures de rétorsion chinoise, parce que le problème est venu de là, ce sont des mesures assez soft qui ont été prises et qui ont souvent été laissées à la main des entreprises. L'Europe n'a pas fait une interdiction, n'a pas banni.
Non, c'est les entreprises qui ont dit « bon bah nous, on ne veut plus utiliser
exactement,
le coton du Xinjiang ».
Exactement, nos okay. clients nous disent que ça n'est pas possible. Mmh. On a compris, on a pris la mesure des choses. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, et on va sans doute y revenir, qu'un des cœurs du problème, c'est pas tant l'attitude de la Chine, c'est l'attitude de l'Europe qui est très fragmentée, très divisée, et qui n'a pas le hard power américain, c'est-à-dire le pouvoir dur, le pouvoir militaire, le pouvoir aussi économique, les outils extraterritoriaux, mmh. et d'une Europe faible dans la pandémie, qui donne le sentiment aux Chinois que nous sommes le ventre mou.
Christian Chavagneux, beaucoup de choses là dans notre coup. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, enfin, comment vous voyez le paysage? Est-ce qu'il y a en effet un rapport de force qui a changé?
Le chercheur Jean-Joseph Boileau, qui est spécialiste de la Chine, qu'on a entendu dans le petit son, il a une expression qui met souvent en avant, il dit « la Chine est le miroir de nos faiblesses ». Et je trouve que ce qui se passe cette semaine, ce qui se passe ces dernières semaines, est vraiment le reflet de ça. Pourquoi ? Rappelons-nous quand même qu'il y a eu un accord d'investissement signé entre l'Union européenne et la Chine.
En novembre ?
Voilà, à l'initiative de la Commission européenne. Quand on regarde, parce qu'on finalement on a pu avoir le texte de l'accord, puis il y a quelques jours les textes sectoriels qui vont derrière. Là, on rentre vraiment dans le dur de la négociation. On s'aperçoit de quoi ? La Commission européenne a les petites phrases habituelles sur « il faudra respecter les droits de l'homme, les droits des travailleurs », tout ça. Mais enfin, elle s'accommodait quand même pas mal du fait qu'on allait enfin signer un grand accord de libre-échange, entre guillemets.
D'investissement.
Comment ?
C'est un accord d'investissement.
Un accord d'investissement avec la Chine. Et les petits détails sectoriels qu'on a eu cette semaine montrent qu'en fait, l'Union européenne avait accepté beaucoup plus d'ouverture du marché européen aux entreprises chinoises que la Chine n'avait accepté d'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Donc la Commission européenne, elle disait, bah voilà, c'est bien, on va investir avec les Chinois et tout se passe bien. Bon, il y a peut-être des Ouïghours qui sont d'un côté, mais on s'en préoccupe pas trop. Le Parlement européen, intervient là-dessus en disant non, non, attendez, on ne va pas dire les Ouïghours, c'est un petit machin à côté, ou les Kazakhs, comme a dit Laurent. Mmh. On va dire, il faut faire quelque chose. On condamne quatre responsables chinois qui sont liés, s'il faut bien appeler des camps de travail forcés, des Ouïghours, notamment au Xinjiang, là où on produit du coton. En retour, des responsables européens et des think tanks, etc., sont visés par les Chinois. Et pour une fois, l'Union européenne, quasi de manière unanime, et quand je dis quasi de manière unanime, c'est-à-dire y compris avec l'Allemagne, qui d'habitude n'aime pas qu'on embête les Chinois parce qu'on exporte beaucoup du côté allemand vers la Chine. Hein. Pour une fois, on condamne la réaction chinoise. Donc on voit bien que c'est miroir des faiblesses politiques européennes, mais aussi miroir des faiblesses des multinationales, puisque la Chine produit 20% du coton mondial, dont 85% proviennent de la fameuse province du Xinjiang, là où il y a ces camps de travail forcés avec les Ouïghours, H&M, Nike, Adidas. La réponse des autorités chinoises, je trouve, a été maligne. Ces trois multinationales ont dit on va arrêter de prendre le coton là où il y a du travail forcé. Donc effectivement, on a vu sur Twitter, on a vu sur Internet les Chinois qui commencent à boycotter ces marques, qui brûlent, qui déchirent, etc. Mais les autorités chinoises, je trouve, ont été malines. Elles ont dit écoutez, vous multinationales, vous voulez manger le riz chinois tout en cassant le bol. Ça veut dire quoi? Vous voulez vendre sur le vaste marché chinois, vous voulez profiter des coûts faibles de la Chine, mais vous indignez des conditions de travail. Mais faites vos choix. Vous pensez qu'on n'est pas démocratique? Eh ben, partez d'ici. Et donc là, on voit les multinationales, tout de suite, HM a dit, oh, mais vous inquiétez pas, on veut investir à long terme en Chine. Ok, on va pas prendre votre coton du travail forcé parce que les consommateurs veulent pas, mais vous inquiétez pas, on va investir à long terme. Donc on voit bien qu'il y a ce jeu politique en Europe, qui a ce jeu économique de la part des multinationales. Ce qui se passe cette semaine, cette montée des tensions, c'est bon, jusqu'où le profit par rapport au respect humain.
Et jusqu'où peut-on se disputer avec une superpuissance? Laurent Bigorne.
C'est pas qu'un jeu de multinationales, c'est aussi le jeu des consommateurs. Quand on regarde le plan de relance dont on a abondamment parlé il y a 15 jours ici même, le plan de relance américain, les 1900 milliards de Biden, on estime aujourd'hui dans les analyses qui sont disponibles qu'il y a à peu près 350 milliards des 1900 milliards qui vont arriver en Chine. Par le truchement, évidemment.
Parce que les Américains vont importer.
Exactement. Et qu'en réalité, le consommateur américain, il n'est pas prêt à payer son écran plat 50% plus cher que ce qu'il paye aujourd'hui en achetant chinois. Là où il y a une mauvaise surprise pour la Chine, c'est que l'arrivée de Biden, d'une certaine façon, met en face de la Chine un compétiteur beaucoup plus redoutable que Trump. Trump, quand il a cherché à contraindre les Chinois, il a par exemple catalysé ou rendu possible en Asie du Sud-Est la signature d'un accord de libre-échange, donc on pense qu'il va énormément bénéficier à la Chine. Les gesticulations de Trump ont été très, j'allais dire, nuisibles à la relation, évidemment, à la relation avec les Chinois, et les ont mis souvent en situation de force. Ce qui va se passer désormais, c'est qu'on a un président américain qui dit « Moi, je suis prêt à réassurer le Japon, je suis prêt à mentionner, même informellement, le fait que Taïwan est un pays, je vais maintenir les tarifs douaniers, je vais refuser des exportations de technologie quand il y a de la propriété intellectuelle américaine. Je vais annuler des droits de diffusion aux États-Unis d'un certain nombre de médias chinois. Et je vais prendre des sanctions. Je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus dur que ce que les Européens font. Et on voit bien que pour l'instant, les Chinois ont énormément de mal à se positionner par rapport à cette offensive de l'administration Biden.
Biden, on dit que c'est Trump plus les droits de l'homme, en fait, Christian.
Peut-être, Trump plus les droits de l'homme, mais du côté chinois, ce qu'on ressent, c'est que... l'histoire économique nous dit que la Chine, en gros, a dominé le monde du 10e au 18e siècle. Et puis, il y a eu la révolution industrielle chez nous. Alors, on a fini par avoir un historien économiste, Kenneth Pomerantz, qui nous a dit... Je vais vous expliquer pourquoi. La Chine était au même niveau. Vous avez des grandes régions chinoises au même niveau que l'Europe au XVIIIe siècle. Nous, on fait la révolution industrielle, eux non. Pourquoi? Parce que les Anglais ont une chance naturelle extraordinaire. Ils avaient du charbon, il y avait qu'à se baisser pour ramasser le charbon. En Chine, c'était pas possible. Et c'est là qu'il y a un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil historique avec ce qui se passe en Chine aujourd'hui. C'est que la deuxième raison qui a permis la révolution industrielle, c'est de pouvoir utiliser des matières premières à bas coût, exploitées par des esclaves aux États-Unis et qui arrivaient en Grande-Bretagne. Comme aujourd'hui, on a la Chine qui se développe en exploitant du travail forcé de certaines minorités. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les Chinois se disent, on a l'impression de refermer la parenthèse de la révolution industrielle. Donc, évidemment, ça booste un petit peu le moral des autorités chinoises, pas très démocratiques. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, dans la bataille économique, j'en reste au sujet économique entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas photo. Les États-Unis dominent largement la planète économique, pour moi. Du côté de la finance, certes, vous avez les quatre premières plus grosses banques du monde. Elles sont chinoises, mais elles sont tournées sur le marché intérieur. Dès que vous partez sur les activités bancaires internationales, les activités de change internationales, toutes les activités financières qui rapportent de l'argent, le dollar domine largement. En termes de production, dans les 100 plus grosses firmes mondiales, un peu plus de la moitié sont américaines, pratiquement une vingtaine sont chinoises. Vous, on aurait fait le bilan il y a 20 ans, on aurait dit il y a zéro chinoise ou une ou deux. Alors, il y en a presque une vingtaine, c'est mieux, mais largement, le système de la production mondiale, qui produit quoi et où, reste à mon avis largement dominé plus par les firmes américaines que par les firmes chinoises. Du côté des savoirs, notre représentation du monde, notre littérature, qu'est-ce qui est possible de faire dans le monde ? Notre littérature, notre façon de comprendre ce qui se passe, c'est plus guidé par les États-Unis que par la Chine. Par contre, sur la maîtrise des données, le stockage et l'utilisation des données, alors là, les BATX, hein, l'équivalent des GAFA chinois, sont très très là. Et le gouvernement chinois a dit d'ici 2025, on fera une révolution technologique, on va passer devant les GAFA. Ils ont les moyens financiers de le faire. Et enfin, ils ont un objectif de lutte contre le changement climatique qui est énorme. Et ils mettent les moyens beaucoup plus que les États-Unis aujourd'hui et que l'Europe. Peut-être qu'ils vont prendre de l'avance de ce côté-là.
Ok, alors là, Christian, vous venez de nous faire une photo sur est-ce que la Chine est cette superpuissance que nous croyons ? Votre réponse, elle est
plus nuancée. Je pense que les États-Unis dominent largement encore.
Laurent ?
Oui, on peut peut-être dire que c'est une question de stock et de flux. C'est-à-dire que le stock, il est occidental, le flux, il est chinois. Quand on regarde ce que va permettre la crise, ou ce qu'elle crée, la crise à la fois, la pandémie, la crise sanitaire, on a quand même une croissance de 6,5%, si tant est qu'on peut véritablement se fier à la statistique publique chinoise, mais 6,5% de croissance au quatrième trimestre 2020. C'est la seule grande économie en croissance en 2020, l'économie chinoise. Elle a connu un bond en avant de sa part des exportations mondiales. Alors, on verra ce qui se passe dans le canal de Suez dans les jours qui viennent pour 21.
Il paraît que ça va se débloquer, ça peut se débloquer ce soir, j'ai entendu.
Exactement.
Okay. 13% du commerce mondial, quand
et
même.
Hein. Énorme.
Quand on regarde, la Chine continentale a attiré l'année dernière 163 milliards de dollars de nouveaux investissements multinationaux dans son territoire. Mm-hmm. Elle a ouvert ses marchés de capitaux aux étrangers qui ont investi près de 1000 milliards de dollars. C'est un changement quand même très considérable pour la finance mondiale. Et quand on regarde par ailleurs son 14e plan quinquennal qui est en train d'être adopté sur la période 21-25, la Chine entend maintenir sa part dans l'industrie manufacturière de l'industrie dans son PIB, à hauteur de 30%. Je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est 22%. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 15%.
Ça, c'est la part de l'industrie dans la richesse nationale
chinoise. Donc, on voit que c'est quand même un pays qui va rester extraordinairement puissant sur ses fondamentaux. Et j'insiste sur un autre point où j'ai envie d'aller discuter avec Christian. C'est en train de devenir une vraie puissance technologique. C'est-à-dire que la stratégie anti-Huawei des États-Unis ne fonctionne pas bien. Sur les 170 pays qui utilisent les produits de Huawei, il y en a seulement 12 qui l'ont interdit depuis la politique qu'avait lancée Trump contre cette entreprise. Et sur les 3 dernières années, le nombre d'entreprises technologiques chinoises pesant plus de 50 milliards de dollars est passé de 7 à 15.
Mais c'est là où il y a un échec majeur. Il y a eu quand même toute une époque, Christian, où on nous a dit « Non mais vous inquiétez pas, on laisse partir les usines, la Chine, l'atelier du monde, très bien. Tout ce qui est cerveau, ça restera chez nous. » La Chine est en train, comme Laurent vient de le dire, de devenir une puissance technologique. Là-dessus...
Et même déjà devenue, je pense, une puissance technologique. Et puis l'année dernière, avec le coup de Trump, on s'aperçoit de quoi ? Qu'il y a une énorme dépendance de la technologie chinoise aux semi-conducteurs américains. Et que demain, enfin, les Chinois sont obligés d'investir massivement. Alors, Laurent a raison, c'est peut-être une question de flux et de stock, mais il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de flux, c'est-à-dire de production locale de semi-conducteurs pour que la technologie chinoise puisse continuer à se développer. On s'aperçoit que la Chine et les États-Unis sont beaucoup plus en interrelation, les deux économies, que ce que les oppositions politiques ne laissent transparaître.
Bon, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant qu'on a fait tout ce tableau, qu'on a dit à quel point la Chine est devenue cette superpuissance, avec des nuances, mais superpuissance, quelle question ça vous pose, Laurent Bigorni ?
Pour moi, il y a trois ombres au tableau. Hein. D'abord, la Chine est quand même extraordinairement dépendante d'une éventuelle fermeture de ses grands marchés extérieurs. C'est une des choses qui se joue sur le coton dans le Xinjiang, parce que c'est pas le coton en tant que tel, c'est l'idée qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir des politiques de boycott, et d'une certaine façon, dans la question de l'OMC, la Chine a beaucoup plus à perdre comme elle est une première exportatrice mondiale.
Alors l'OMC, il faut rappeler donc que
l'Organisation mondiale du commerce, elle a beaucoup plus à perdre que nous dans des négociations qui se passeraient pas bien ou dans une organisation qui ne fonctionnerait plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des bugs. L'année dernière, on a produit 1 milliard de tonnes d'acier en Chine. C'est inabsorbable. Troisième sujet, c'est l'environnement. Christian rappelait, et je suis pas tout à fait d'accord sur la perspective, effectivement, qui est annoncée et claironnée par les Chinois d'une neutralité carbone d'ici 2060. À la fin du XXe siècle, on nous racontait déjà que la Chine ferait baisser sa consommation de charbon. Elle a été multipliée par 4 depuis la fin du XXe siècle.
Christian, les questions que ça vous pose?
Trois failles. Je pense que le risque de dépendance à l'extérieur, il est en train d'être un petit peu éliminé par les Chinois. L'excédent extérieur de la Chine, c'était équivalent à peu près à 10% du PIB en 2007. C'était 1 à 1,5% l'année dernière. Il y a un recentrage du modèle chinois sur la Chine et peut-être un petit peu sur la région asiatique.
Ouais, ils sont en train de se basculer un peu plus vers l'Asie. Ouais.
Complètement. Il y a une population vieillissante. Attention, ça va pas aller dans le sens de dynamique de la Chine. Et puis, il y a le facteur X, quoi, qui est Joe Biden. Joe Biden, la semaine prochaine, il va annoncer 3000 milliards de dépenses pour développer le potentiel de croissance de l'économie américaine. Là, il y a un concurrent sérieux. Les États-Unis, non seulement restent en avance, mais reprennent la main.
Ben, Christian, transition toute trouvée.
Et ben voilà.
J'aimerais faire un zoom sur l'autre superpuissance de la planète à présent. On a parlé de la Chine. Maintenant, les États-Unis. Joe Biden, c'était sa première conférence de presse cette semaine.
President Biden held his first formal news conference since coming into the White House. He covered a wide range of topics.
Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Alexandra.
Grégory, vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors dans sa conférence, le président américain a beaucoup vanté son plan de relance à 1900 milliards. Mais Christian vient d'en parler, on sait qu'il travaille aussi sur un autre plan. Cette fois, il s'agira d'investir massivement dans les infrastructures. Ce qu'on a peut-être moins souligné, Grégory, et qui pourtant, chez vous, commence à faire couler beaucoup d'encre, c'est la façon dont il compte financer ce projet. Joe Biden va augmenter l'impôt sur les sociétés ?
Oui, et je peux vous dire qu'à New York, où je me trouve en ce moment, le patronat local est très remonté contre ce projet. Pas moins de 250 grands patrons new-yorkais de banques comme Chase ou de multinationales comme Pfizer ont écrit cette semaine au gouverneur Cuomo et aux élus démocrates pour leur dire qu'augmenter l'impôt sur les sociétés était une très mauvaise idée, que ça allait compliquer le redémarrage du moteur économique dans une ville, New York, où un an après le début de la pandémie, 10% seulement des bureaux sont occupés. La Chambre de commerce a, elle, publié un communiqué pour dire qu'une telle décision rendrait les États-Unis beaucoup moins attractifs. Alors, de quoi s'agit-il précisément? L'idée mise sur la table par la nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, elle était auditionnée par la Chambre des représentants, c'est d'augmenter l'impôt sur les sociétés et de le faire passer de 21% aujourd'hui à 28% demain. On était à 35% avant Trump, donc ce que propose Yellen, c'est de parcourir la moitié du chemin. Ça, évidemment, pour financer ce nouveau plan dont vous parlez, un plan cette fois chiffré à 3000 milliards de dollars. L'administration Biden veut mettre les entreprises à contribution, même si on sait aussi que les grandes sociétés américaines savent très bien jouer avec la fiscalité locale et que beaucoup échappent en partie à l'impôt, que le seuil soit fixé à 21 ou à 28%.
En effet, Grégory Phillips à New York ce samedi. Merci à vous. Merci aux débatteurs Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux. Le débat éco le samedi matin, c'est avec eux. À venir dans 10 minutes, notre invité, il sera question de notre appétit de consommation avec le patron de Fnac Darty, Enrique Martinez, qui vend, vous le savez, des réfrigérateurs aussi bien que des consoles de jeux. Ben, c'est par là, le jeu vidéo, qu'on va rentrer dans le sujet. Voici au moins une industrie qui vient de vivre une année record. Le jeu vidéo, grand gagnant de la pandémie, ce sont les gamers qui en parlent le mieux. Are you ready?
Ready?
Ready.
Allez, c'est parti.
Aveuglé.
Comme, hey guys. Donc là, moi, je suis mort parce que je me suis pris une balle sur le côté et je leur donne l'info que c'est en A, quoi. Tout le monde est sur le site A.
Ennemi repéré au milieu.
Ah, derrière moi, il y avait quelqu'un. Dommage. Bon, là, on va gagner, je pense. Ouais, pas GG, guys. Voilà, enfin, c'est fini. C'est très triste, c'était chaud. Hein. C'était plutôt une souffrance, en tout cas un choix difficile à chaque fois, de dire bon allez là je peux pas jouer tant que je voudrais parce que bah faut faire les devoirs pour la fac, ensuite bien le boulot, bah les journées sont vite remplies, on est fatigué le soir et en fait puis aussi une vie sociale. Il y a eu le premier confinement, il y a eu le chômage partiel, beaucoup plus de temps libre.
Alors là on est dans votre chambre, vous avez un super fauteuil.
Ça, c'est le gros cadeau que je me suis fait à Noël, le craquage. Ça pèse son prix, hein. On est sur 400€ à la chaise, donc ouais.
Ça, c'est le bureau de gaming que vous vous êtes installé.
Oui, grosse envie de me dire, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de me racheter un PC fixe, une vraie tour gaming. Et puis aussi, le stream, ça commence à me travailler, j'y avais déjà pensé. J'ai fait péter le livret A et je me suis dit, allez, de toute façon, on ne sait pas où ça nous mène cette année de Covid. Enfin, je pense que j'ai triplé mon temps passé sur la console par rapport à ce que je faisais d'habitude dans le cadre de quand j'avais mon travail et ma vie sociale, quoi.
Bref, le craquage, quoi. Voilà Fanny, une Parisienne de 29 ans. Aujourd'hui, elle est en
pleine reconversion professionnelle. Cette année de pandémie, elle l'a menée à quoi ? À vivre sa passion à fond, enfin ! Comme des millions d'autres habitants de cette planète et habitantes, puisque désormais il y a autant de femmes qui jouent que d'hommes. En Asie, cette année 2020, les gamers ont augmenté leur temps de jeu de 40%, en France de 25%. Alors parlons chiffres. Chez nous, si on ajoute les ventes de PC, de consoles, de jeux et d'accessoires, on arrive à un chiffre d'affaires de 5 milliards 300 millions d'euros. En clair, ça signifie que le jeu vidéo, c'est désormais notre première industrie culturelle, devant le cinéma, devant le livre. Est-ce que cette croissance est durable ? Quelle est la place de nos entreprises tricolores sur la scène mondiale ? Tout ça, notre reporter Claire Chaudière, elle va nous le dire. Mais d'abord, Claire, elle a besoin de comprendre comment Fanny l'a laminée à Valorant en deux coups de cuillère à peau. Claire, franchement, il y a deux secrets, investissement et entraînement.
Je joue bien au moins, je dirais, 1h30 par jour. Ouais. Alors, donc là, ça c'est Steam, justement, c'est un peu la plateforme, voilà, le magasin en ligne des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents qui existent, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a pas mal de prix qui sont tirés vers le bas, avec pas mal de périodes de soldes, en fait, de réductions sur les différents jeux.
Mais il y a des jeux gratuits qui, en fait, ne sont pas gratuits, ou en tout cas rapportent beaucoup d'argent.
Typiquement, le jeu auquel on a joué là, Valorant. Alors, c'est ce qu'on appelle la free-to-play, il est disponible gratuitement. Et par contre, Riot, qui est l'éditeur, touche de l'argent grâce à ce qui se passe à l'intérieur du jeu, les microtransactions. Et donc, effectivement, dans ce jeu-là, alors après, il existe plein de types de transactions. Dans ce jeu-là, c'est pour acheter plutôt des éléments esthétiques. Donc, avoir une arme personnalisée, notamment. Il y a un système de collection, c'est un peu comme les vêtements.
Et les joueurs le font.
Après, les plus hypés, ils vont avoir envie d'avoir des... ceux qui jouent beaucoup au jeu, ils vont avoir envie au bout d'un moment de personnaliser, forcément, puisqu'ils y jouent énormément. Donc voilà. C'est un des business models qui existe dans le jeu vidéo. Notamment dans le free-to-play, s'il n'y a pas ça, ils ne gagnent pas d'argent. Donc de toute façon, c'est réglé. Ils mettent un jeu à disposition et c'est tout ce qu'il y a autour du jeu qui va rapporter de l'argent.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont en fait les jeux gratuits qui sont de loin les plus rémunérateurs. Mais la vente de jeux à l'unité marche encore très bien. En fait, tous les voyants sont au vert, les chiffres sont vertigineux et derrière, c'est tout un secteur qui bouillonne. Il y a les studios qui conçoivent les jeux avec leurs équipes de développeurs et les éditeurs qui les produisent. Allez Alexandra, je vous emmène dans le sud de la France, sur l'un des territoires les plus dynamiques sur ce créneau.
Alors, je suis arrivée à Montpellier. Je vais voir un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Plugin Digital et qui a été récompensé la semaine dernière lors de la cérémonie des Pégases, l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo, pour son jeu Paper Beast qui a été créé par un grand nom du jeu vidéo, Eric Chahi.
Pardon ?
Est-ce que tu as
une cheminée ? Non. Les étagères.
C'est Eric Chahi qui sort sa statuette, voilà, son Pégase d'honneur.
De jeux vidéo.
Il est beau, hein ?
Bonjour, je suis Francis Ingrand, président et fondateur de Plugin Digital.
Est-ce que vous vous attendiez, il y a un an, à ce que cette période, qui est quand même assez sombre, mais finalement, bénéficie à l'industrie du jeu vidéo ?
Alors non, on était un petit peu comme tout le monde, dans l'inconnu, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On l'a vu parce que, en fait, dans le digital, on a ce qu'on appelle des tableaux de bord, et on voit au jour le jour les ventes. Souvent dans le jeu vidéo, on voit des pics. Là, on a vu un pic et après, on a vu vraiment un effet de plateau où les ventes se stabilisaient à un niveau bien supérieur à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, je pense vraiment qu'on a converti des gens qui disaient « le jeu vidéo, c'est pas pour moi » ou « je suis trop vieux » ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a fini à 48% de croissance, ce qui est assez important. Et on peut dire que peut-être 10 ou 15% de cette croissance est due à cet effet Covid. Donc, c'est quand même assez important. Beaucoup d'acteurs financiers regardaient le jeu vidéo de façon un peu... Ils avaient un peu de défiance, on va dire. Et aujourd'hui, ils voient bien que c'est une industrie structurée. On le sent très bien. On est en train de travailler sur une deuxième levée de fonds et on est courtisé comme jamais. Mais c'est pas magique. Il suffit pas d'empiler des jeux pour que ça marche. Si vous comparez un producteur de cinéma qui, lui, va avoir son film préfinancé par les chaînes de télé, le CNC, etc., dans le jeu vidéo, quand je signe un jeu, il n'y a aucun préfinancement. Donc on va mettre 500 000, 600 000 euros dans un jeu. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et il faut être sûr de ses forces. On a aussi un petit peu la responsabilité de la survie du studio. Le studio, il fait un jeu. Si le jeu ne marche pas, le studio va mourir. La clé, c'est quand même l'international. On peut pas aujourd'hui vivre si on vise un marché franco-français. Dans le jeu vidéo, c'est pas possible. Et on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est cloud gaming. Donc, c'est plutôt des offres type abonnement à la Netflix ou à la Canal+.
C'est l'avenir de la consommation de jeux vidéo, vous diriez ?
Oui, clairement.
Donc le futur, ce seront ces Netflix du jeu vidéo, ces plateformes qui marcheront avec des abonnements, lesquels donneront accès à des catalogues de jeux. Le risque pour les petits studios, c'est d'être engloutis, de devenir invisibles dans un univers où des blockbusters comme FIFA ou League of Legends prendraient toute la place. Ce sera l'un des enjeux des prochaines années pour notre éditeur. Mais en attendant, à Montpellier, on veut absolument soutenir cet écosystème et l'accompagner dans son développement. J'ai rendez-vous avec Valérie Chaillou, en charge de ce dossier à la Métropole.
Là, on est dans un endroit qui est encore en travaux.
C'est ça. C'était un ancien site de l'armée qui a été acquis par la collectivité, par la ville, qui va être un quartier mixte qui accueillera des logements et des professionnels, des étudiants qui sont dans le secteur des industries culturelles et créatives. Donc c'est vraiment un quartier dédié à cette filière-là. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un secteur dont on a conscience qu'il est porteur sur notre territoire. Justement par le jeu vidéo, c'est vrai que le jeu vidéo a une histoire assez longue sur le territoire avec l'implantation d'Ubisoft d'abord et puis pas mal de sociétés, de studios indépendants qui ont essaimé autour. C'est-à-dire qu'on a des structures, des studios qui vont développer un jeu et puis on a aussi des studios son, de post-prod audio qui vont permettre de faire les doublages des voix par exemple pour ces jeux-là. Et ça, ça crée une vraie émulation, une vraie effervescence sur plein de projets. On estime sur le bassin d'emploi, on va dire, entre 600-700 emplois dans le jeu vidéo, mais après il y a plein d'emplois induits aussi. Vous voyez, il y a tous les emplois dans le son aussi qui vont aller compléter cet écosystème-là. Donc dans les ICC, dans leur globalité, on est plutôt à 2000 emplois. Donc jeux vidéo, images animées, donc animation, audiovisuel, le son, l'audio. Et puis, la proximité d'une école, enfin de plusieurs écoles d'ailleurs, qui sont au sein d'un campus qui est le campus créatif, qui a ouvert...
Juste là.
Voilà, qui a ouvert en octobre. Alors on va aller dans le campus, vous allez voir, c'est super joli.
Waouh.
Alors jusqu'où ira donc la croissance de cette industrie ? Une industrie qui s'est développée jusqu'ici de manière plutôt cyclique, un peu en accordéon. Eh bien c'est justement ça qui pourrait changer pour l'économiste Laurent Michaud. Il travaille pour les écoles du campus.
En fait, cette industrie, elle est assez jeune, hein. Elle a un peu plus de 40 ans. Hein. Le cinéma, quand il avait 40 ans, c'était dans les années 40, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une industrie qui reste en devenir. Et je pense qu'on est loin de son zénith encore. Hein, c'est de toute évidence la première industrie des loisirs dans le monde numérique. Ça le restera sans aucun doute. Elle a la capacité d'influencer également les autres industries culturelles, ce qui est assez intéressant. Au niveau mondial aujourd'hui, c'est presque 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est assez important. Hein, c'est plus de deux fois l'industrie du cinéma. Voilà, prochainement il y aura les hologrammes qui vont venir un petit peu troubler ce jeu-là. Donc c'est une industrie qui se renouvelle. Voilà, le deep learning, l'intelligence artificielle sont aujourd'hui utilisés dans l'industrie du jeu. Elle a toujours eu des cycles de croissance importants, même si, vous le signaliez, elle était cyclique. Mais ce cycle-là, il est dû principalement à la vente de consoles de salon. Mais aujourd'hui, dans le marché mondial, vous avez 50% des revenus qui viennent du mobile. Il n'y a pas de cycle dans le mobile. C'est un déploiement qui est linéaire, en croissance. Donc voilà, la croissance ne va pas cesser quoi, avant un moment.
Pour l'industrie du jeu vidéo, la partie ne fait que commencer. C'était le reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et ce samedi, l'invité du Mag Écho est le PDG de Fnac Darty. Bonjour Enrique Martinez.
Bonjour.
Pendant le reportage, vous êtes entré, vous l'avez écouté avec moi et vous me disiez, oui, nous on l'a vécu à plein cette explosion du jeu vidéo.
Ouais, dans les premiers confinements surtout, on a vu des rouées des clients qui avaient besoin de s'en occuper. Et les gaming, ça a été un des marchés préférés. Et en plus, c'était l'année 2020, des lancements des nouvelles consoles, la nouvelle génération des consoles, donc les marchés a été record dans tous les sens.
Ça veut dire quoi en termes de chiffres pour vous, pour la Fnac?
Nous, c'est plus de 5000 consoles, plus de 300 000 jeux, donc c'est des chiffres records à tous sens. Et surtout des nouveaux clients, beaucoup des femmes, beaucoup des familles qui sont rentrées dans ces domaines qui avant étaient très geek, hommes. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un marché qui est totalement universel.
On parlait du canal de Suez un peu plus tôt dans l'émission. On sait que tout ce qui est électronique, les consoles, etc., ça, c'est fabriqué en Asie, les ordinateurs, la télévision. Est-ce que le canal de Suez bloqué, ça vous inquiète ?
Bon, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a rien dans ces bateaux qui est traversé qui nous appartiennent. Mais probablement dans les bateaux qui attendent pour passer, oui, il y aura forcément, parce que ça fait partie des flux normaux. Je pense que si dans les prochains jours, ils arrivent à débloquer, ça ne sert à rien parce qu'il y a toujours la marge.
Il n'y aura pas de pénurie pour vous ?
Une semaine de plus, il va falloir trouver des alternatives, notamment pour les grands produits comme l'électroménager, la télévision.
Et qu'est-ce que c'est les alternatives ?
Il va falloir que les bateaux ils détournent par les câbles de l'Espérance pour monter pour le nord de l'Afrique, pour arriver en Europe, parce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas venir en avion parce qu'ils sont trop lourds. Donc voilà, mais je pense que les choses, j'espère qu'ils vont se trouver rapidement.
Alors, ce qui arrive en ce moment, Enrique Martinez, pour le PDG de Fnac Darty, c'est sans doute, j'imagine, un autre souci, c'est ces confinements partiels, reconfinements, demi-confinements, et puis ces rayons essentiels, pas essentiels. Aujourd'hui, si je vais dans un magasin, dans vos magasins physiques, dites-moi ce que je peux acheter, ce que je ne peux pas acheter.
C'est simple. Aujourd'hui, sauf les gros électroménagers et les jouets, tous les restes de nos catégories, soit à la Fnac, soit chez Darty, sont totalement disponibles parce qu'ils ont été considérés comme essentiels.
Ça veut dire que je peux acheter une machine à café, mais pas un frigo ?
Oui, exactement.
Ouais, je peux acheter du jeu électronique, mais je ne peux pas acheter du jeu de cartes pour les enfants.
Vous pouvez pas rentrer dans les rayons jouets parce qu'ils sont bloqués aux clients. Bon, c'est vrai que c'est un peu complexe, les clients parfois ils comprennent pas, une fois qu'ils sont dedans, pourquoi, si les conditions sanitaires sont totalement respectées, comme c'était le cas. Mais bon, je pense que ça fait partie un peu de la complexité que le gouvernement a dû faire face pour cadrer un peu certaines activités, et parfois il y a des barrières qui sont pas totalement cohérent, il faut se le dire.
Même pour le PDG de Fnac Darty, c'est ça que j'entends.
Nous, on comprend, on l'accompagne, on essaie de participer de manière intelligente à cet effort que tout le monde fait. Les commerces ont joué les jeux dès le début. Mmh. On a appliqué des règles très strictes, on a investi dans le magasin, on a protégé nos équipes, on a équipé des masques, même au moment très difficile, où il était très cher et très compliqué à trouver. Et je ne pense pas que dans nos magasins soit la source principale des contaminations. Mais Il faut jouer les jeux, donc nous faisons partie de l'économie et de la société, il faut s'y plier à ça, il faut adapter. Après, on espère que sortons vite, parce que ça fait long, et c'est compliqué pour beaucoup d'entreprises, de petite et moyenne taille.
Et pour vous alors, est-ce que ça veut dire du chiffre d'affaires en moins ? Est-ce que ça veut dire vous placez vos salariés des rayons qui sont barrés en activité partielle ?
Oui, qu'on a des magasins, aujourd'hui on a plus d'une soixantaine de magasins fermés, parce que vous savez qu'il y a l'autre mesure, c'est la taille des centres commerciaux, des grands magasins, et nous avons plus de 60, et les plus gros magasins de la chaîne sont presque tous fermés, donc ça fait un impact important dans les chiffres de ces magasins. Il y a plus de 2000 employés en chômage partiel aujourd'hui.
Qui sur sont 19 000 en France.
Oui, à peu près.
Ouais.
Sur ces collaborateurs d'exploitation, c'est à peu près 20%. Et après, on a la chance que l'activité digitale s'est portée très bien pour nous, donc on arrive à compenser une bonne partie. Et les magasins qui sont ouverts, ils fonctionnent bien parce que les clients ils sont contents de venir au magasin encore.
Alors justement, l'activité digitale, finalement, l'année 2020, elle s'est plutôt bien passée pour vous. Bénéfices en baisse, mais chiffre d'affaires en hausse, c'est ça ?
Bon, je pense qu'on a eu une demande très forte. Vous avez parlé du gaming, mais il y a aussi les ordinateurs pour télétravailler, les électroménagers pour mieux vivre à la maison, faire la cuisine, parce que les Français ils sont restés chez eux, donc ils ont appris à cuisiner plus chez eux, donc ils sont investis dans les petites et les grandes électroménagers. Et ça fait une demande très forte. Il nous a permis de récupérer, à partir du mois de mai, tout ce que nous avions perdu au moment du premier confinement où nous avions dû fermer la totalité de nos magasins.
Et le digital, vous dites, ça compense à quelle hauteur ?
Aujourd'hui, ça représente autour des 30% de nos chiffres d'affaires. Avant, c'était 20%, donc on a doublé, presque doublé pendant certaines périodes. Après, c'est normalisé. Donc une bonne partie de la perte des magasins s'est compensée largement par l'activité digitale.
Alors pourtant, je lis que quand on va en ligne, moins de 3% des visites deviennent des achats, et que ceux qui cliquent, enfin voilà, quand on clique, on fait des paniers, et que plus de 7 paniers sur 10 sont abandonnés.
Oui.
Finalement, le digital ne génère pas tant d'achats que ça.
Après, ça génère un niveau de trafic qui est 100 fois plus qu'un magasin. C'est-à-dire que vous pouvez visiter, vos sites internet avec des smartphones 50 fois dans la journée. Et vous vous déplacez à un magasin une fois par semaine. Donc les ratios des visites vers transformation est totalement différent. En gros, vous avez parlé des 3%. Quand vous venez au magasin, une fois sur trois, vous achetez. Mais vous venez 10 fois plus. Donc finalement, il faut les regarder dans ces sens-là. Et en 3% le taux de transformation, ça devient un taux intéressant pour les commerces en ligne.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour le PDG de Fnac Darty d'avoir vu comme ça sa part de commerce digital augmenter? Ça veut dire que vous vous dites, bah, je vais peut-être fermer des magasins physiques finalement, je vais mettre le paquet sur le digital. Comment vous allez faire votre équilibre?
Nous, nous étions déjà dans cette force digitale parce que les groupes, ça fait plus de 20 ans qu'il y a e-commerçants. Donc ça n'était pas la crise qui nous a appris, ça nous a accéléré. Et nous mettons en place un modèle qui combine la force des deux modèles, magasin et physique, grâce à nos systèmes multicanal. Plus de la moitié des chiffres d'affaires digital sont des produits qui reviennent au magasin pour les collecter. Donc les magasins, ils jouent un rôle hyper important pour notre modèle économique.
Donc ça veut dire que vous fermez
pas. Hors de question de se débarrasser de nos magasins.
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je lis que vous allez former quand même les vendeurs des magasins physiques,
oui,
pour que d'un seul coup ils fassent du live streaming, du conseil en digital, en direct, c'est
oui,
ça?
Oui, parce que les clients, effectivement, comme ils sont de plus en plus digitalisés, ils souhaitent aussi avoir l'expérience des magasins chez eux. Et aujourd'hui, la technologie les permet. Il y a énormément de plateformes. On a commencé à faire déjà l'année dernière des live streams, des live chats, des réparations à distance, avec les smartphones. Les clients, ils appellent les services techniques, ils montrent les produits et les techniciens sont parfois capables de réparer les produits à distance. Donc tout ça, la technologie nous permet et nous ouvre des opportunités incroyables.
Ça, c'est la façon de résister au grand rival. Et le grand rival, il s'appelle Amazon?
Ouais, c'est la façon d'être leader. Fnac Darty est le leader de toutes ces catégories en France. Donc nous sommes les leaders, à nous de trouver et profiter de la technologie. Vous avez cité un concurrent mondial qui est énorme, magnifique, mais pour autant, nous sommes dans le commerce depuis 60 ans, nous avons plus de 40 millions de clients, et tout ça, c'est quelque chose.
Autre transformation dans nos habitudes de consommation, je lis que vous vous lancez dans la revente d'appareils d'occasion, Enrique Martinez. Vous voulez donc proposer aussi des abonnements pour que les clients fassent réparer leurs appareils. Ça signifie qu'on passe d'une économie où on est attaché à son produit, à la possession, à une économie de service. Ça, vous pensez que les Français y sont prêts?
Complètement. Et je pense que la pandémie, encore une fois, ça a accéléré ces sentiments de consommateurs, des concilier à la fois des choses qui parfois il peut pas être impossible à concilier, c'est consommer et être responsable. Et pour cela, il faut acheter des bons produits qui consomment pas beaucoup, mais qui aussi ils tombent pas en panne. Et si jamais ça tombe en panne, pouvoir les réparer et pouvoir les garder le plus longtemps possible. Et ça, c'est l'axe majeur de nos plans. Les stratégies que nous venons d'annoncer, Everyday, et qui dit qu'on va doubler les nombres des produits que nous allons réparer à l'année, plus de 2,5 millions, et ça va permettre aux clients qui souhaitent garder ces produits 5, 10, 15 ans, les temps qu'ils veulent.
Mais si je vous suis, ça veut dire que le patron de Fnac Darty pense qu'on va dans nos sociétés occidentales, vous êtes présent dans 12 pays, alors aussi en Afrique, vous êtes, en Occident, on va quand même vers une forme de décroissance, on consommera moins de produits.
Non, je pense qu'il faut consommer mieux, il faut garder les produits autant qu'il nous les faut, et après à nous de trouver une économie du service pour rendre tout ça possible, et arrêter d'acheter des produits qu'on jette d'une manière inconsciente, acheter des bons produits qu'on peut réparer et tenir, et après à nous, aux acteurs de l'économie, de s'adapter à ces nouveaux formats. Et l'avantage pour nous, c'est que Darty a inventé son contrat de confiance et son modèle du SAV intégré depuis plus de 40 ans. Donc et tout ça, en fait, c'est parfait pour nous.
Ça veut dire que vous êtes confiant. J'entends quand même, vous venez aussi de rembourser votre plan garanti par l'État de 500 millions. Vous avez l'air confiant pour 2021. Vous pensez que les Français ils vont avoir l'appétit de consommer? Vous allez recruter? Comment ça va se passer?
Les Français continuent à consommer. Il y a beaucoup d'épargne, ça a été dit. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'opportunités de faire des choses à part travailler et dormir parce que tout est fermé, on ne peut pas voyager. Donc la consommation des produits essentiels pour travailler, pour se faire plaisir, il reste très forte. Donc nous sommes modérément optimistes malgré toutes ces circonstances de la pandémie qui sont mis en difficulté des groupes comme les nôtres.
Et vous allez recruter?
Bien sûr, on cherche surtout, je fais un appel encore, on cherche des techniciens pour pouvoir nourrir cette équipe du service après-vente pour réparer plus des produits. Et aussi dans les domaines du digital, il y a énormément de postes qui sont ouverts chez nous.
Alors ça veut dire combien en chiffres de postes?
Il y a au moins 500 postes techniciens qu'on va recruter. Il y a une école qui est bien d'être ouverte et doubler le nombre d'élèves pour former. Mais aussi on cherche des techniciens déjà formés pour nourrir nos équipes des techniciens réparateurs.
Enrique Martinez, dernière question, c'est justement sur vos salariés. Est-ce que vous avez versé la prime en 2020 et est-ce que l'appel à verser une prime en 2021, vous l'entendez ?
L'année dernière, oui, on a versé, pendant la période du premier confinement, à tous les collaborateurs qui étaient un service essentiel. Cette année, ces primes, cette annonce, il arrive, je suis désolé, mais un peu tard dans nos programmes annuels des NAO, des négociations annuelles, qui étaient à temps de définir. On n'a pas encore pris une décision finale, mais ça risque d'être un peu trop tard pour nous.
Je pense que, ok, la réponse, je l'entends, d'accord, à demi-mot, mais ça paraît clair. Enrique Martinez, le PDG de Fnac Darty, merci d'avoir accepté l'invitation
merci
du MAGECO.
Merci.
Allez, ma vie au boulot avec Sandrine Foulon. Sandrine, allez, on peut le dire carrément, c'est une révolution qui vous fait réagir ce matin. Pour la première fois, c'est vous qui nous le dites, oui, on vous croit, il y a plus de cadres que d'ouvriers en France. Est-ce que la face du marché du travail va s'en trouver changée ?
Et oui Alexandra, ça y est, c'est fait. En 2020, les courbes se sont enfin croisées, ça devait arriver. La France perd des usines, gagne des bureaux. Il y a 40 ans, les ouvriers étaient 4 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, mais avec une économie qui se tertiarise, des femmes qui sont de plus en plus diplômées, les cadres ont donc fini par dépasser les ouvriers d'une courte tête. L'INSEE a fait ses comptes, 20,4% des personnes en emploi sont des cadres, 19,2% sont des ouvriers. Mais attention, il ne s'agit là que des salariés qui ont un travail, pas des actifs qui sont au chômage. Si on prend l'ensemble, il y a toujours plus d'ouvriers que de cadres. Et puis, dans ce nouveau camembert, il ne faut pas non plus oublier les employés et les professions intermédiaires, deux catégories qui en occupent chacune un bon quart. Sur le papier, oui, ce découpage est une petite révolution. Dans la réalité, en déduire que le marché du travail est en train d'être tiré par le haut, c'est aller un peu vite en besogne parce que les cadres ne forment pas un groupe compact.
Alors justement, Sandrine, à quoi reconnaît-on un cadre ?
C'est pas simple, les frontières sont poreuses, il y a des non-cadres qui encadrent et des cadres qui n'encadrent pas. Le diplôme n'est pas forcément une condition suffisante, le salaire non plus. Selon l'APEC, une moitié de cadres gagne plus de 4 160 € bruts par mois, l'autre moitié touche moins. L'autonomie n'est pas non plus un critère réservé au seul cadre depuis la loi de 2008 qui a réformé les forfaits annuels en jours. Tous les salariés qui peuvent organiser leur emploi du temps n'ont plus à le décompter en heures. Alors bien sûr, on devrait pouvoir reconnaître un cadre à son niveau de qualification, son autonomie et ses responsabilités. Ce sont les trois critères qu'ont retenu les partenaires sociaux qui ont tous signé un accord national interprofessionnel sur l'encadrement l'an passé. Bon, c'est aussi pour préserver le statut cadre qui n'est pas défini dans le Code du travail, mais auquel sont rattachés des droits spécifiques dans les conventions collectives ou pour la retraite complémentaire par exemple. Mais au-delà de ces définitions, comme pour le vent, il y a le ressenti. Certains cadres ont le sentiment d'être relégués en deuxième division, certains employés de faire partie d'une nouvelle classe laborieuse, tout comme les coursiers, qui sont eux auto-entrepreneurs, alors que certains ouvriers qualifiés, à temps plein et bien payés, ont plutôt la sensation d'avoir pris le bon ascenseur. L'INSEE a beau faire de nouvelles nomenclatures, c'est dur de faire entrer tout le monde dans la bonne case.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.